D'Europe numéro 1 à Europe 1, 50 ans d'archives sonores.
Ici Europe numéro 1.
Here is Europa numero 1.
This is Europe number 1.
Jusqu'à 26 à 27 degrés à Paris cet après-midi, 29 à Nantes, 32 à Bordeaux et à Périgueux, à Toulouse et 33 à Pau.
Vous êtes formidables. Pour vous en convaincre, Europe numéro 1 présente comme chaque mardi l'émission de Jacques-Antoine. Vous êtes formidables.
Salut les copains.
Salut les copains.
L'émission de Daniel
Philippe.
Alors ne tirez pas.
Ah, super belle.
Du cœur au boulot, wow, wow, mélodie parade, Gérard Klein.
Troisième but, 3-0, nous sommes, ils sont tous ensemble, la France entière est championne du monde de football, historique.
Europe 1, découverte, Europe 1.
We copy you down, Eagle, you're looking good here.
Ça y est,
Eagle. Le mec à la lune.
Et pas le feu en tout.
Voici donc Musicorama sur le Tour de France, présenté par l'huile Le Sieur.
Pulpeux comme la pêche.
Marc Tronchot.
Salut et fraternité, comme disait mon grand-père. Bienvenue à tous dans le studio Coluche pour ce rendez-vous dominical avec les enfants d'Europe 1. Je vais en citer deux dont les courriers m'ont particulièrement touché cette semaine. Gérard Perrou, qui rêve de participer à cette émission. Je vais y penser sérieusement. Et Daniel Baudesson, son père a installé et dirigé l'émetteur du Felsberg jusqu'en 79. L'émetteur Grandes Ondes mis en service en Allemagne en 55, ce qui explique au passage pourquoi Europe numéro 1 était à l'origine une radio dite périphérique. Un bon anniversaire à Daniel, même avec un peu de retard, et merci pour vos messages et vos lettres. Dans ce courrier, on m'a souvent demandé des nouvelles de celui qui est aujourd'hui mon invité, alors il va lui-même vous en donner. Il y a ceux qui se sont fait un nom dans la vie, il y a, plus fort encore, ceux qui se sont fait un prénom, et encore plus fort, ceux à qui des vedettes planétaires ont dédié des chansons. Je laisse le micro à George Harrison.
Merci beaucoup. The next song is pour Hubert, and it's called Ticket to Ride.
Tous ceux qui se flattent de connaître Europe 1 connaissent Hubert. Salut Hubert.
Salut Marc.
T'as de sacrées relations, dis donc. Un des Beatles, c'est pas donné à tout le monde quand même. Pourquoi il te dédie cette chanson ?
Oh, c'est une petite anecdote toute bête. Il y avait à l'époque à Londres, où j'étais à peu près un week-end sur deux, où j'habitais chez George d'ailleurs, que j'avais rencontré. Je te raconte en deux mots la rencontre avec George, chez Jésus, le petit bistrot du coin en face d'Europe 1.
De François 1er.
Ouais. Je vois une fille sublime à la terrasse qui me regarde. Je me retourne, bon, c'était bien moi qu'elle regardait. Je m'approche, elle me sourit encore plus. Elle me fait un petit signe d'approcher. Voilà. Et quand j'arrive près d'elle, elle tape sur l'épaule de son vis-à-vis, qui me tournait le dos. Elle lui dit, tu vois George, c'est le blouson que tu cherches partout qu'il a. Ça a commencé comme ça. C'est vrai que j'avais une espèce de blouson andin, moitié western à l'époque. Et bon, on a commencé à bavarder. J'ai dit, bah, attends, bah, le blouson, oui, ouais, je vais t'emmener chez mon copain Pancho, c'est lui qui l'a fait. Il avait à l'époque McDouglas, les cuirs, les blousons, les trucs. Et on a commencé, alors ils ont fait une photo, ils ont donné les mensurations, ils ont rappelé quelques jours après pour avoir les mensurations des autres copains Beatles pour qu'ils lui leur fassent des petits blousons et des machins, que j'étais chargé de livrer. Et comme j'allais de temps en temps à Londres à cause d'André Pousse qui avait la locomotive où on faisait une émission et où j'allais faire mon marché au Marquis pour trouver des groupes, etc. J'appelle George, j'étais avec une copine, j'appelle George en arrivant à Londres. Je lui dis, ça y est, j'arrive, j'ai les blousons. Et il me dit, passe-moi ton chauffeur de taxi, je vais lui donner l'itinéraire. Et premier soir, j'arrive avec ma petite copine et mes blousons. Les autres, bien sûr, rappliquent parce qu'ils étaient tout le temps ensemble. Ils essayent les blousons, les machins, et tout ça. On passe la première soirée. Je lui dis, bon, bah, c'est pas tout ça, faut que j'aille trouver un hôtel. Il me dit, tu rigoles, t'habites ici. Et voilà. Et ça a commencé comme ça, et c'était le début d'une belle amitié.
Donc il y a ceux qui prennent des vestes, il y a ceux qui les donnent, et toi tu les donnes à Beatles.
Voilà.
Bon, c'est pas mal.
Alors l'anecdote de la dédicace, donc un soir, dans une boîte qui était sur Leicester Square, qui s'appelait Ad Lib, un truc de musicien, on était toute une bande, il y avait Donovan, il y avait tout ça, bon. Et Donovan me dit, t'aurais pas de livres à me prêter, c'est pour mon taxi, alors j'ai une boîte de livres, et les autres pouffaient. Je dis, pourquoi vous rigolez? Il me dit, attends, il fait le coup à tout le monde, il est radin comme ça pour permis. Ah bon, et puis quelques minutes après, j'étais en train de vaguement flirter avec une jeune fille régionale. Et George se penche à mon oreille et il me dit, vérifie qu'elle a un ticket de métro ou les sous pour le taxi.
Ticket to ride.
Et quand je les ai présentés au Palais des Sports, clin d'œil, il y avait Paul qui me regardait, j'étais sur le côté, Paul me regardait, et George s'est avancé, il a sorti l'histoire du ticket to ride.
Voilà, ouais. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, nous sommes en compagnie d'un monsieur, d'un gentleman, très important. Ils vont faire ta connaissance aux alentours de quelle année, les auditeurs d'Europe numéro 1 ?
63.
23 septembre 63, l'équipe des enfants d'Europe 1 a précisément retrouvé ton premier vagissement sur l'antenne en duo avec un monsieur que je salue bien bas au passage et qui poursuit aujourd'hui une carrière d'acteur au théâtre, monsieur Robert Marcy, les débuts d'Hubert, septembre 63.
Nous voulons Scotch Brit, nous voulons Scotch Brit. Oui madame, non c'est pas moi, ce sont vos casseroles qui réclament. Toutes vos casseroles, qu'elles soient en inox, en émail ou en aluminium. Tampons. Tampon vert Scotch Brit, le tampon propre qui rend tout propre. Avec Scotch Brit, vos casseroles sont tout de suite propres, nettes et brillantes. Et Scotch Brit ne rouille pas, Scotch Brit ne raye pas, Scotch Brit ne s'effrite pas. Scotch Brit dure longtemps. Scotch Brit, c'est le tampon vert qui vous fait voir la vaisselle en rose. Scotch Brit, une production 3M, Minnesota de France.
Bonjour.
Eh bien non, ne vous dérangez pas pour moi, j'arrive, faites-moi juste une petite place à côté de vous sur le siège, voilà, je pose mes disques, on va les écouter ensemble, celui qu'on entend en ce moment s'appelle The High and the Mighty. Vous vous souvenez la musique du film Écrit dans le ciel ? Tiens, Robert Marcy, c'est gentil à vous d'être venu m'éponger le front. Mais puisque vous êtes là, je voudrais que vous me racontiez la suite des aventures de Malabar.
Effectivement, je suis venu vous encourager d'abord, Hubert, puis je suis venu aussi raconter la suite de cette aventure que maintenant je raconte toujours vers cette heure-ci, qui est assez saisissante.
Minute d'émotion, non ?
Oh là ! Oh là là !
Alors, pour la publicité Scotch Brit, avec
oui,
un R.
Désolé pour le petit lapsus.
Oui, c'est toi.
Ouais. Ah là là. Oh là, c'était, bon, c'était il y a quelques semaines, quoi.
Donc, ah. T'avais oublié ça ?
Oh non, non, je vais te dire parce que un copain d'Europe 1, justement, qui s'appelle Jacques David, qui était musicien, batteur et en plus homme de publicité, avait gardé cette bande et un jour me l'avait fait écouter et je dois dire que j'avais été assez ému. Ben écoute, bravo. Alors là,
et Malabar, c'est quoi alors ? C'était un feuilleton.
Je me souviens vraiment pas. Ouais. Alors, vraiment.
C'est impressionnant d'arriver à Europe numéro 1. On a parlé de la génération Salut les copains. On croise dans les couloirs, j'imagine, pas mal de gens assez impressionnants, déjà.
Oh oui. Écoute, la première fois où je suis arrivé, c'est mon copain Xavier Roy et Jean-Jean Gieff, parce qu'à l'époque...
T'étais dans le disque.
J'étais dans le disque. J'étais représentant dans le Sud-Ouest pour les disques Vogue. Je vendais du Johnny Hallyday, du Dalida, etc. Et je m'étais un peu endormi auprès d'une jeune fille pendant quelques semaines à Bordeaux.
Ça fait la troisième hein, depuis le début de cette émission.
Bah oui, mais tu sais, elles sont nombreuses. Hein, on n'arrivera jamais à faire l'appel complet. Et je vois arriver mon copain d'enfance, Xavier Roy, à Bordeaux. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais là ? Il me dit, je suis représentant. On dit, moi aussi, c'est marrant. Mais tu travailles pour qui ? Il me dit, pour Vogue. Ah non, Vogue, c'est moi. Non, c'est moi. Mais pourquoi c'est toi ? Parce qu'ils n'ont plus de nouvelles du représentant du coin depuis trois semaines au moins. Et je dis, c'était moi. Ah bon, d'accord.
Tu venais perdre ton travail.
Ah ben, je l'ai appris ce jour-là. Alors, on a pris le journal pour que je me retrouve vite un boulot. Paf, coup de chance, petite annonce, maison de disques cherche représentant pour le Sud-Ouest. Ça n'arrive que dans les films. J'ai appelé, on m'a dit, bon, ça va, on vous envoie le catalogue, le matériel. Et on a fait avec Xavier notre tournée ensemble. Et puis un beau jour, je me suis retrouvé en Espagne avec lui, on était en vacances. Et puis, j'habitais sur le bateau du père d'une fiancée. Désolé, encore Quatre. Une. Aide-moi à tenir les comptes, je ne suis pas un bon gestionnaire. Et il me dit, oh, faut que tu remontes à Paris, tu ne vas pas passer l'hiver ici. Alors j'avais mon jean, mon t-shirt noir, mon chapeau cordobès. On est arrivé chez lui à Paris, il me dit bon, à Europe, ils cherchent des gens, écoute, tu vas aller y penser un jour ou deux, ils vont te dédommager, c'est toujours ça, ça nous laissera du temps pour te trouver un boulot sérieux.
Et bon. T'es resté.
Et le lendemain, il m'a prêté des chaussures, un costume, parce qu'on avait la même taille, et je suis arrivé, et voilà. Et là, on m'a fait faire un essai de voix. Oui. On lisait les pubs à l'époque. Oui. Donc j'ai lu les pubs et il y avait un homme remarquable, Pierre François, qui avait appris son métier de preneur de son quand il était prisonnier. On l'avait mis au service de Van Karajan en Allemagne, pas mal quand même. Hein. C'est lui qui avait rapporté les fameux Nagra. Et voilà, voilà comment ça a commencé. Alors il me dit c'est bien le ton et tout, mais il y a un petit cheveu sur. Je dis où je vais le mettre le petit cheveu. Ça l'a fait rire. Il me dit bon, vous revenez demain. Le lendemain, on m'a envoyé à la discothèque me chercher un petit programme de disques et des pubs. J'ai fait donc comme une émission réelle mais enregistrée. Et puis j'ai fait un peu comme j'avais entendu faire les Américains qui ne se déplacent jamais sans leur intendant, c'est que j'avais entendu quand il y avait une base américaine du Strategic Air Command à Ben Yerir au Maroc où moi j'étais un jeune troufion de l'armée française, et je me suis un peu mélangé à la musique. Ça s'appelait disc jockey, le fait de parler dans la musique, de s'introduire dans la musique comme ça. Ça a eu l'air de leur plaire. Le soir en sortant, je dis attendez, on m'avait dit qu'il y aurait une petite indemnité. Ah bon, on verra ça. Bon, alors vous revenez demain. Alors le lendemain, on m'a emmené au premier étage où il y avait de la moquette. J'ai dit il doit y avoir un chef. Là, dans une espèce de petit bureau d'antichambre, je vois sortir Anouk Aimé, Pierre Barou, Claude Lelouch. Je dis oh là, c'est bien tenu, il y a du beau bon ici. Et tout petit singe albinos qui suivait derrière et qui me dit bon, j'ai pas beaucoup de temps, vous êtes Hubert, je m'appelle Lucien Maurice, j'ai écouté ce que vous avez fait, vous venez demain, vous commencerez sur l'antenne l'après-midi, c'est ce qu'on a entendu au début de l'émission. Et il me dit bon, pour le reste je vous ai laissé quelques petites indications dans une enveloppe, voilà, à demain. Et j'ouvre l'enveloppe et il y avait les sous.
Et tu veux que je te fasse entendre, puisque tu parlais de pub tout à l'heure, comment tu traitais certaines pubs à certains moments. Je vais te faire écouter, tiens.
Écoutez bien, les conseils du Bert.
Yeah. Qu'il suffit d'un seul moustique,
oui,
d'un seul moustique, pour gâcher le sommeil le plus profond. Remarquez, les moustiques, ça fait des bzzz.
Ça fait des bises. Alors que... Ça y est, je l'ai eu. Alors que Timor est là... André Arnaud aussi, d'ailleurs. Alors que Timor est là...
Il trépasse, allez. Vous êtes bourré, attends, on ne parle plus.
Ça s'appelle un fou rire, voyez-vous. Alors que Timor est là pour vous débarrasser de tous les insectes. Ne soyez pas agacé, énervé. Exaspéré par les moustiques pendant votre sommeil. Timor normal extermine tous les insectes volants, mouches, moustiques, etc. Et Timor spécial extermine tous les insectes rampants, cafards. Le cafard est exterminé ce soir. Puces, fourmis. Timor est vraiment super actif. Il s'infiltre partout d'ailleurs. Timor, en bombe rouge et or, est en vente chez votre droguiste. Où Timor passe, l'insecte trépasse.
Voilà.
Ah, quel beau fou rire avec André en plus.
André Arnaud, oui. Oui, il y en a quelques-uns dans les archives d'Europe. Oh là, hein. Voilà. Des fous rires. Oui, c'était bien parce qu'on n'enregistrait pas les pubs nécessairement.
C'était du vrai direct. Là.
Il y en a beaucoup de fous rires dans ta vie. Il y a de quoi faire. Une sacrée réputation de bout en train.
Il y a de quoi en faire un manteau de fous rires.
Bah tiens, à propos de pub, on va faire une pause et puis on se retrouve après.
Ça marche.
Les enfants d'Europe 1, Marc Tronchot.
Émission exceptionnelle avec un invité exceptionnel, Hubert, un des plus grands enfants d'Europe 1. On peut plus coucher grand-mère depuis qu'elle écoute Hubert, c'est un slogan qui a été inventé par toi.
Bah oui.
Alors, pour quelle émission ?
C'était pour Dans le vent. À l'époque, les jingles, ça n'existait pas, quoi. Ça avait existé vaguement autrefois, quand Marcel Bleustein-Blanchet avait fait Radio Cité. Mais depuis, ça n'existait plus. Et moi, je trouvais que les jingles, c'était indispensable. Mais j'avais pas de budget. Hein. Chaque fois que j'avais besoin d'un peu de matériel ou de quelque chose, alors j'allais voir, cette belle phrase, Maurice Siegel. Je lui disais, voilà, Maurice, là, on aurait besoin d'acheter ça, ça. Bon. Et comme lui, il était obligé de gérer, il disait, mais il répondait par une phrase. Il disait, c'est du dénuement que naît le génie. C'était un bon moyen de dire, j'ai pas les sous, quand même, de temps en temps, il en lâchait un peu pour acheter ça. Mais les jingles, j'avais pas de budget. Alors, tous les copains achetaient, enregistraient des disques. Ouais. Et la voix qu'on entend, qu'on a entendue tout à l'heure dans le petit jingle, c'est celle de Willie Lewis, batteur remarquable des Chats Sauvages, et qui dirigeait quelques séances d'enregistrement. Alors moi, je lui faisais des petits textes, et les copains musiciens et les copains chanteurs, quand il y avait une petite pause au moment où ils enregistraient leur album, bah, sur la pause, ils se prenaient 2-3 minutes et ils me faisaient un petit jingle.
Alors dans le vent, tu prends la suite de Michel Cogoni.
Ah ouais.
Il y avait quoi au programme? C'était quoi le concept de cette émission?
Il y avait pratiquement un truc différent chaque jour, c'est-à-dire qu'il y avait un invité, il y avait on avait amené dans la langue française un nouveau mot qui s'appelait hit parade.
Alors disjockey et maintenant hit parade, oui.
Hit parade.
On n'arrêtait pas d'inventer.
Il y avait, alors bon, on recevait les invités, c'était plus que convivial. Oh, je me souviens d'un jour Francis Blanche qui était un enfant d'Europe. Ouais. Il était en train de préparer son émission du dimanche, et donc je t'ai dit qu'on lisait les publicités à l'époque. Et j'étais dans le studio Pyramide, il y avait les Who et je sais plus quel autre groupe. Ce qui fait que j'avais deux casques sur les oreilles carrément, tu vois. J'essayais de suivre, et on faisait ça en direct, hein, bien sûr. Et au moment des pubs, je sors mes pubs, j'attrape la première pub, et Francis arrive dans le studio à ce moment-là, il fait la pipe, et au moment où je commence à lire ma première pub, il allume son briquet et il met le feu au bas de la pub. Et j'étais obligé de me parler à toute vitesse comme ça pour essayer d'arriver avant que la flamme rejoigne la chute. C'était ça.
C'est une émission qui va permettre de prendre la mesure de certains artistes invités et de faire découvrir certains talents secrets. Les talents d'imitatrice de Sylvie Vartan, par exemple.
Dans le vent. Bonsoir Roger, bonsoir à tous et à toutes, bonsoir à notre invité de ce soir, ça va ? Vous l'avez tous reconnu, c'est Albert Reisner qui... Non, c'est ça que tu nous chantes ?
Oui, c'est ce que je te chante.
C'est un cadeau d'Albert, ça, hein ?
Ça, oui.
Petite harmonica à quelques notes, comme ça. Bon, Sylvie, d'abord, je voulais lire la fin d'un article d'un journal de jeunes, là. Hein, fin d'un article qui te concerne, qui nous concerne, d'ailleurs, parce qu'il y a marqué « Oui, Sylvie pourrait devenir un jour une vedette de musical complète, meneuse de revue, pourquoi pas ?» C'est ce qu'il a, est-ce qu'il aura fait penser à ça. Elle a bien chanté sa version, elle, d'un grand succès de Miss Tinguette, c'est vrai. Lors de l'émission Le Jeu dégage de machin sur l'Europe numéro 1.
Michel Cogoni,
ouais, c'est le 4 février dernier. Et tous ceux qui l'ont entendu ont trouvé ça très bon. Ben voilà. Alors, je voulais te demander.
C'est pas toi qui l'as écrit, non?
Donc, toujours dans mon truc, dans mon idée meneuse de jeu. Tiens, ça te va,
de jeu. Oui.
Tu sais qu'il faut quelquefois imiter les gens.
Hein?
Alors, on m'a dit que tu avais des talents d'imitation. Qu'est-ce que tu préfères imiter? Raconte-moi.
Je vais te dire Petula, Dalida. Et Françoise Hardy.
Tu veux que nous imiter d'abord Dalida ?
Oui, d'accord.
Bon, alors voilà.
Nous irons.
Sûr que c'est toi, là?
Oui, c'est moi.
Bon.
Sur des playbacks de Dalida, d'ailleurs.
Oui, ouais, bien sûr. Et d'autre part, il y a Françoise Hardy. C'est plus dur, Françoise Hardy, parce que elle a une voix qui ne prête pas à la caricature tellement. Hein, elle n'a pas d'accent.
Oh,
elle, a pas
de... elle a une voix normale, je trouve.
Bon, bah, alors, on t'écoute dans Françoise Hardy.
Oui.
Allez. Françoise Hardy il y a quelques mois, hein, d'ailleurs.
Oui. Non, il y a plus longtemps que ça.
Bon, il y a Pétula aussi. Tu prends bien les accents, finalement. Hein.
Oui.
Alors, écoute Pétula, tiens.
Je m'en vais vers le soleil dans le train de nuit. Je m'en vais, c'en est assez, assez de Paris. Sur le chemin du paradis, dans le train de nuit. Le chef de gare est là, le voilà. Dans le train de nuit, c'est le départ. Oui, le départ.
Hé hé, Pétula. Bon, Pétula, on la retrouvera pour le jeu des gages.
Alors, le jeu des gages. Le jeu des gages, Hubert.
Invention.
Ça faisait partie de l'émission Dans le vent. Invention de
Lucien Maurice. Et Michel, comme je dis, je peux pas laisser passer la voix de mon vieux frère, quoi. C'est, oh, ça, il fait partie des premiers qui m'ont accueilli dans la famille. Mmh. Alors, on demandait aux auditeurs d'écrire la semaine précédente en leur annonçant le nom de l'invité de la semaine suivante, en disant posez vos questions. On choisissait les questions les plus intéressantes. L'invité répondait bien ou mal. S'il répondait vraiment mal ou à côté, il avait un gage. Et s'il répondait pas, il avait un gage aussi. Alors là, il y a eu des trucs croustillants.
Oh, exemple. Là, là.
Pour exemple, tiens, Franck Alamo. Franck Alamo.
Biche bon, ou ma biche.
Oui, ce qui est un joli titre pour oui. Le petit grand d'un.
Oui.
De son vrai nom. Et alors Franck, première chose, bon, tu ton plat favori. Oh, le steak purée, très bien. Alors, premier gage, allez hop, 500 grammes de purée. Bon, alors il mange ça. On avait la voiture émettrice en plus, on se baladait dans Paris. Et deuxième gage, c'est-à-dire quelques minutes plus tard. Bon, tu aimes l'eau, tu aimes plonger, tu aimes tout ça, très bien. Alors ton prochain gage, nous sommes à la piscine de l'étoile, voilà. Alors tu te mets en maillot et tu vas nous faire quatre longueurs et on va te chronométrer. Oh, facile, bon. Mais il y avait quand même les 500 grammes de purée précédemment, qui n'étaient pas idéales pour le souffle. Mmh. Et je dis, bon, en plus, pour animer un peu la chose, il y a une fille qui va nager à côté de toi. Ah ouais, sympa et tout. Et il commence, et la fille était bien briefée, bien, évidemment. Alors il fait une longueur, deux longueurs, elle le suit à peu près. Alors ça, tu sais, l'ébullition, troisième longueur, il commence à forcer un peu, elle suit toujours. Et puis quatrième longueur, elle commence à lui mettre deux, trois longueurs dans la vue, elle s'appelait Kiki Caron. Et voilà. Elle s'appelle toujours Kiki Caron, c'est une fille formidable.
On a fait blayer la rue François 1er à Dalida, c'est vrai ça?
Oui, on lui a fait chanter du flamenco dans une boîte espagnole. Bon, il y en a plein. Enrico Macias, on l'avait mis sur une espèce de home trainer, un vélo, tu vois, qui entraînait une magnéto, laquelle faisait tourner, pas un tépaz, mais une platine de disque, et il devait faire tourner à la bonne vitesse mon cœur d'attache, c'était quelque chose.
Je passe ta vie à t'amuser, en fait.
Bah, hein? Ça me paraît être un des vices les plus supportables.
Ouais, et puis tu passes ta vie avec le monde des variétés, c'est ton monde. Alors tu vas faire de la course auto avec Johnny, tu vas ouvrir un club de nuit avec Carlos, où tout showbiz de l'époque va se donner rendez-vous. J'ai lu que quelque part que Mike Brandt avait commencé là.
Ouais. Bah, c'est-à-dire que on avait parmi nos associés un homme fantastique qui s'appelait Maurice Casanova, qui avait le beatboxer, le bistingo où on était. Mmh. Et il avait pour habitude de toujours laisser, disons, la part du pauvre. C'est-à-dire que quelqu'un arrivait, disait, j'ai pas de sous, mais je boirais bien un verre, mais je veux bien faire le bœuf, parce qu'il y avait toujours des musiciens,
ouais.
Ou chanter quelque chose. J'ai faim, j'ai soif, ok, t'es le bienvenu. Bon, et un type arrive avec un accent à couper au couteau. Je suis israélien, je viens de Téhéran, et là, c'est pas facile pour moi, le Téhéran. On m'a dit, je viens ici, si j'y chante, je peux manger. Bah, mange déjà. Hein, bon. Et puis, bon, et puis non, mais je vais chanter, c'est normal, je dois chanter. Bon, chante. Et là, il a commencé à chanter.
Et là, on s'est rendu compte qu'il avait.
Et là, les cuillères sont tombées. Ah ouais, Mike Brandt. Alors c'était un copain qui venait souvent, à qui on a dit, écoute, nous, bon, on peut aider, mais toi, t'as des sous, tu produis. Paf, et il a fait son premier disque comme ça. C'était très compliqué le métier à l'époque.
Des copains, toujours des copains. Ah, on les retrouve après une pause. Les enfants d'Europe 1 réunis autour d'Hubert. Hubert, salut les copains. En 68, tu animes l'émission ouais. Phare de la station. C'est une consécration, tu le vis quoi, comment, comme un bâton de maréchal?
Non, j'avais... j'avais presque des réticences pour y aller. Un soir, c'est Jacques Valson et Jacques Lanzmann qui m'ont attrapé au bas de la rue. Là, on était assis sur un banc. Ils me disaient, mais donc, Daniel, il a plein de trucs à faire et tout. Faudrait que tu fasses Salut les copains et tout. Je dis, ouais, mais dans le vent, j'aime bien. Mais Salut les copains, c'est Daniel. Non, faut que tu y ailles. Bon, finalement.
Daniel Philippe Aquino.
Oui, bien sûr. Et allons-y pour Salut les copains. Et j'ai fait Salut les copains. Et ça a été évidemment un moment de bonheur, quoi.
Ouais, et puis t'as tous tes copains qui participaient au générique.
SLC, vite tous les jours, pas de ta gueule, cette brûlure, n'y est pas.
Cette semaine, cette chanson est classée numéro 1.
Si M. Kennedy aujourd'hui revenait, ou si M. Gandhi soudain ressuscitait, ils seraient étonnés quand on leur apprendrait que pour changer le monde, il suffit de chanter da-da-da-dam-dam.
Et voici le jeu du Hit Parade.
Allô ?
C'est Michel Pétel ?
Oui, elle-même.
C'est Salut les copains, bonjour.
Bonjour Bernard.
Bonjour Michel, tu habites à Reims ?
Oui.
Rue Courmont ?
C'est ça.
Bien, Michel, tu gagnes 2 disques plus un petit cadeau supplémentaire et sympathique. Si tu me rappelles le titre de la chanson qui est classée numéro 4 à notre Hit Parade.
Oui, La poupée qui fait non.
Par ?
Comment ? Par... Michel Paul Morel.
Michel, tu as gagné en effet La poupée qui fait non. C'est exactement ça et c'est Michel Polnareff qui chante cette chanson.
Oh, merci beaucoup.
Mais voilà, tu recevras donc tes 2 disques plus un petit cadeau qui permettra de te désaltérer agréablement chez toi. Très bientôt.
Bien, je vous remercie.
Au revoir Michel.
Au revoir Bernard, merci beaucoup.
Au revoir.
Hubert, qu'est-ce qui fait le succès de Salut les copains ?
Bon, je pense qu'on parle la même langue que les gens qui nous écoutent. On essaie de parler français néanmoins. et puis on a le bonheur d'être toujours parmi les premiers à avoir tout ce qui arrive, tout ce qui se crée, tout ce qui se passe dans la musique. Et c'est ça le bonheur. Par exemple, André Pousse, dont j'ai parlé, qui avait créé la première boîte grande surface, la locomotive sous le Moulin Rouge, nous dit, j'étais dans le bureau de Lucien Maurice, et André Pousse arrive avec un petit gars et il dit, voilà, ça, le petit là, je l'ai trouvé au Sacré-Cœur hier, je trouve qu'il gratte de la guitare, il paraît qu'il joue aussi du piano, il est vraiment bien, tu devrais écouter Lucien. Et il s'appelait Michel Polnareff. Ça a commencé comme ça.
Prendre les commandes de Salut les copains en 68, c'est pas anodin ?
Ah non, là, c'est comme si... c'est comme si, pour la première fois, t'es commande bord d'un long courrier, quoi.
Oui, puis on manie de la poudre aussi un petit peu, non ?
De la poudre ?
Bah de la poudre, oui. On a une jeunesse qui est en train de se mettre dans la rue. Elle doit avoir, pas mal de choses à faire passer, pas mal de messages à faire passer. On va peut-être les faciliter.
Ben, on est des jeunes aussi, hein. On a le même âge, on est de la même génération. Moi, je passe mes nuits de d'un côté et de l'autre des barricades, parce que j'ai un copain qui est au SAC, le service d'action civique. Alors, grâce à ses passes, on va du côté de la police. Et puis, avec les copains journalistes d'Europe 1, je vais de l'autre côté, on vit tout ça. Il nous arrive des trucs.
On peut rester objectif dans une émission de ce genre quand toutes vos vedettes sont des copains ?
Ouais, bien sûr.
Ouais. D'ailleurs, s'il y a un disque qui est mauvais, on peut le lui dire en face.
En général, Lucien disait si t'as une petite fâcherie ou quelque chose avec quelqu'un, tu passes pas son disque, ça t'évite d'en parler, c'est plus gentil. Et puis, des fois, Lucien, lui, il avait un jour, quand il faisait une émission, il avait carrément, l'histoire est connue, cassé le disque de Johnny à l'antenne en disant non, ça ne marchera pas, ça. Et puis, quelques temps après, tout aussi gentiment,
il a reconnu ses torts
et dit, c'est un grand.
Qui sont tes amis les plus proches dans ce milieu de la variété ?
Oh, il y a beaucoup de copains, il y a quelques amis.
Alors on va dire ceux qui le sont devenus et qui le sont restés.
Mitchell, numéro un dans mon hit parade, c'est un grand. Et puis, il y en a quelques autres quand même. Ouais.
Alors t'as tellement de bons souvenirs que tu vas avoir envie de remettre ça en 96. Salut les copains, on écoute.
Hubert, sur Europe 1.
Er ist der Obersturmführer Schulz, Papa Schulz, qui vous parle. À partir de maintenant et jusqu'à désormais, toute personne qui sera surpris à ne pas écouter « Salut les copains » sera sévèrement fusillé. Pam, pam, compris ? C'est un ordre.
Off, monsieur Francis Blanche. La guitare et le saxo, c'est quand même la base, hein. Il y a 3 ans, là, déjà, bon, ça fait démodé maintenant, mais en 59, ça marchait, hein. Red River Rock, c'était Johnny and the Hurricanes, vous vous souvenez? Oh. Ouais, d'accord, bon, mais ça, oui.
On peut imaginer, Hubert, celui des copains en 2006, en 2008, en 2010.
Ouais, je vais te dire.
Facile de dire aussi qu'on se baigne pas deux fois dans le même fleuve.
Oui, mais si l'eau est fraîche et pas polluée, c'est bien aussi, ça rafraîchit. Non, mais par exemple, on se cache rien, on est voisins. Moi, j'ai le bonheur de recevoir justement tous mes copains chaque dimanche soir.
Sur Radio Nostalgie.
Sur Nostalgie.
Le groupe Énergie, on les salue au passage.
Allez, ouais, après tout, nous sommes un. Et on se raconte plein de choses, on se souvient de plein de bons moments, de petites anecdotes.
Mais faut pas tomber dans la nostalgie non plus.
Mais la nostalgie, c'est la joie de vivre de notre mémoire. C'est un truc très positif. Paf.
Bon, comme tu touches à tout, y compris à la philosophie, tu vas forcément toucher à l'une des émissions fétiches d'Europe numéro 1, Musicorama.
Salut à tous et salut à toutes. Bienvenue à ce Musicorama assez génial. Vous allez pouvoir le voir, moi j'en ai déjà vu un, il est terrible. Vous passerez la soirée ce soir avec un show comme vous en avez rarement vu. C'est votre ami Hubert qui vous le dit. Il y aura les Monkees, Roger Conley, Khaled Thomas, Eddie Floyd, Sam and Dave, Otis Redding. Et sur scène actuellement, un des meilleurs orchestres instrumentaux américains, Booker T and the MGs.
C'est rien que des bons souvenirs, tout ça, non?
Oh là là.
Alors, Musicorama, l'émission était enregistrée et elle était diffusée le lendemain.
Oui, ou dans les heures qui suivaient, quoi.
T'en as fait combien des Musicorama? Avec qui?
Quand on aime, on compte pas. Tiens, justement, le petit extrait qu'on a entendu, je me souviens que Otis Redding, qui passait le dernier, c'était l'époque où j'adorais cette chanson, donc je la passais beaucoup. C'était Try a Little Tenderness. Et il chantait ça divinement. Et à la fin, étant donné que moi je présentais le spectacle et que j'avais mon petit casque et mon micro, j'étais sur le côté de la scène pour faire les commentaires pour l'antenne, à la fin de son tour, au moment où il a commencé à chanter Try a Little Tenderness, il est venu me chercher, il m'a traîné par la main sur scène pour que je chante avec lui. C'est infernal. J'avais un trac, je savais plus où me mettre. Ah ben non, je voulais pas. Mais allez, il m'a traîné, c'était ça.
T'as le sentiment d'avoir travaillé dans ta vie, au sens où certains l'entendent?
Je ne sais même pas comment ça s'écrit.
Alors je disais que tu savais tout faire, t'as même fait reporter, correspondant aux États-Unis pour la rédaction, au moment de la mort d'Elvis Presley, pour Europe 1 à Memphis, Tennessee, Hubert Wayaf.
Aujourd'hui, je suis en train d'écouter la radio ici à Memphis et j'entends les bulletins de la circulation routière qui demandent aux gens d'éviter le boulevard Elvis Presley, qui signalent que les freeways autour sont bloqués par ceux qui sont ou bien des fans sentimentaux ou des charognards curieux, peu importe, mais qui peuvent voir après des heures d'attente l'idole en chair et en os, seulement plus rien d'autre qu'en chair et en os. Alors on se presse, on se bouscule, on hospitalise 50 personnes dans la journée, on l'adore ou alors on lui en veut, on entend mais de quel droit tu nous quittes maintenant? Mais il y a quand même une atmosphère très spéciale, c'est le contraire de la fête foraine. C'est pas du tout la kermesse, c'est vrai, il est mort sans crier gare et l'Amérique est en deuil. Dans sa famille. Elle a perdu un fils, une idole, un rêve, le rêve américain, cet homme. 3 générations d'Américains pleurent leur adolescence, leur musique, leur propre image,
Pour une fois, les journaux, la radio, la télé, les gens oublient l'Amérique des chiffres, des networks et des plannings et de la violence et des coups, parce qu'elle vient d'encaisser un direct qui la touche individuellement, un coup au cœur. C'est comme chez un ami, même si d'autres dormiront pas, il n'y a plus un lit disponible et bien des gens dans l'avion, un des nombreux avions supplémentaires qui m'ont amené, pleurait. Ça n'a choqué personne. Enfin, ici c'est la ville frontière entre les sudistes et les nordistes, et ce soir, 500 000 blancs et 500 000 noirs ont enterré leur petit, celui dont ils ont fait le king. Hubert, Europe 1, Memphis, Tennessee, USA.
C'est drôlement bien écrit.
Ah, c'est écrit, pas écrit. Bah, non.
C'est pas écrit.
Bah non.
Ça vaut peut-être quelques explications. Tu te trouvais là.
J'arrive à New York et je me trouve.
Et tu venais pour.
J'allais, je pense que j'allais faire peut-être, bon, sûrement des bêtises ou rencontrer des copains. Et je devais être sur le chemin de la Californie, sûrement parce que j'aime bien la Californie. Et j'ai un message. Elvis is dead. Alors j'appelle et je fonce à Memphis. Et entre temps, un copain qui était secrétaire général de la rédaction d'Europe 1, que j'ai au téléphone, me dit « Mais mon frère habite Memphis, t'inquiète pas, donne-lui le numéro de ton vol, il va venir te chercher. » La vieille solidarité, là. Et on m'attend à l'aéroport. Je vais chez ce copain. Et là, bah, je m'installe chez lui gentiment. Il m'offre l'hospitalité. Et le soir, on va faire un peu le tour des radios, des télés du coin, pour essayer de savoir comment faire pour donner des informations, faire un bout de reportage, parce que, effectivement, ça a été un deuil mondial, Presley, pour tous ses fans. Et finalement, les gens d'une télé locale me disent, écoutez, nous, de toute façon, on va tout, où que vous soyez, où que vous vous installiez, vous verrez jamais mieux que sur notre télé, parce que nous, on va avoir les hélicos, tout ce qu'il faut, on va tout filmer, et on va repasser au major, aux grandes télés. Alors, je me suis installé avec une boisson fraîche dans la salle à manger du copain, en regardant la télé, et en traduisant les interviews des uns et des autres qui venaient rendre hommage.
Et puis t'as fait envoyé spécial pour Europe.
Voilà. C'est comme Barclay, quoi. Ça tourne une page quand des gens comme ça disparaissent.
Les enfants d'Europe 1 avec Hubert, une pause et on se retrouve dans quelques instants.
Marc Tronchot.
Les enfants d'Europe 1, dans le studio Coluche, avec Hubert, pour évoquer la grande histoire d'Europe 1. Il y a l'histoire de la comédie musicale Air, qui fera connaître Julien Clerc, qui va faire scandale, provoquer la montée au créneau des Ligues de Vertu et de l'Armée du Salut. Tu vas nous raconter quelle part tu prends dans tout ça, mais après le reportage.
Pas question de partir en guerre contre tous les spectacles un peu trop déshabillés. Et que je précise tout de suite que Hair n'est pas attaqué par nous à cause du déshabillé, mais à cause des attitudes obscènes, érotiques, inadmissibles, pornographiques, incroyables, qui durent pendant 3 heures de spectacle. Il ne faut pas, sous prétexte de l'art, ramener l'homme dont la dignité est d'avoir été créé à l'image de Dieu, comme disent les Saintes Écritures, au niveau de la bête. Et actuellement, ce qui se passe sur la scène du théâtre de la Porte-Saint-Martin ravale l'homme au niveau de l'animal. Ce qui est pire que la misère matérielle, c'est la misère morale des gens qui ne savent plus à quoi croire, c'est la société permissive, c'est la jeunesse qui se perd, et nous avons le sentiment qu'il faut faire quelque chose pour réagir, même si la cause était une cause perdue.
Dieu lui dit.
je pense que je trouve ça un peu gros. Si Hier est un spectacle érotique, moi je trouve pas. Enfin, ce monsieur devrait sortir pour voir les spectacles érotiques. Il y a des spectacles érotiques à Paris. Dans Hier, je trouve qu'il n'y a rien d'érotique. Moi, je trouve que Hier, c'est plutôt quelque chose de pur. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai retenu que... Ils avaient reçu beaucoup d'argent pour les voir Air, depuis qu'ils sont pas venus qu'une fois, ces gens sont revenus. La deuxième fois, on les a plus beaucoup entendus. Au bout de la troisième fois, ils n'ont plus entendu du tout. Ce qui prouve qu'ils sont, touchés par la grâce.
Et pourtant, il y a peut-être beaucoup de choses qui peuvent choquer un spectateur moyen.
Un responsable de l'Armée du Salut, oui, un spectateur moyen, je pense pas. Non, parce qu'il n'y a pas de spectateur moyen qui soit choqué par ce qui se passe dans l'herbe. Vous savez, mes parents, qui sont des gens respectables, qui ont même dû donner d'ailleurs parfois dans leur vie à l'armée du salut, n'ont pas été choqués par les choses qui ont choqué ce monsieur, en tout cas.
Est-ce que vous connaissiez l'armée du salut avant que les militants, les salutistes viennent contester votre spectacle ?
Ben oui, je les connaissais parce que j'ai dormi dans un hôtel de l'armée du salut, qui nous ont reçus très gentiment. Autrement, je les ai vus de temps en temps haranguer la foule dans les rues, comme ça. Tout ce que je peux dire, c'est que même quand j'étais avec des bandes d'amis et qu'on trouvait ça drôle, vous savez, il faut bien que jeunesse se passe, jamais on n'empêchait ces gens de parler.
Alors, vous n'avez peut-être pas reconnu la voix du porte-parole de l'armée du salut, mais vous avez sûrement reconnu celle de Julien Clerc, interrogé par Alexandre Fronty. Hubert, quelle part tu prends dans l'arrivée de ce spectacle qui nous vient d'outre-Atlantique en France ?
Bah, j'étais à New York. Et,
encore ?
Oui, j'étais à New York.
Mais tu passais ton temps là-bas, c'est pas
non,
vrai.
Non, mais j'aimais bien y aller de temps en temps, à New York, en Californie ou à Londres. Il fallait quand même aller...
Voir les copines.
Voir les copines et aussi les copains, et écouter la musique. Et je tombe sur Bertrand Castelli. Et Bertrand me dit, mais je lui dis, qu'est-ce que tu fabriques? Il me dit, bah, je me suis mis dans un truc de production. Bah, viens voir. Il m'emmène au Biltmore Theater. Et là, je vois Hair. Et je trouve ça génial, quoi. Bon. Et on en parle. Et puis finalement, je lui dis, bon, écoutez, faut qu'on rapporte ça à Paris. Allez, fais ta valoche, tu viens avec moi. Hop. Et nous voilà, débarquant à Paris.
Et te voilà organisateur de spectacle. Et tu vas faire le casting, tu vas faire tout ça ?
Non. Je suis pas organisateur de spectacle. Au départ, je ramène Bertrand et je fais Salut les copains à l'époque. Et pendant Salut les copains, comme j'avais rapporté l'album, je fais écouter l'album de R pendant l'émission et j'appelle les copains au téléphone en disant, dis donc, ça te plairait, toi, d'être dans la version française de ce truc-là? Il y avait Julien, il y en avait quelques autres, comme ça, que j'ai appelé. Il y en a qui me disent oui, il y en a qui me disent non, ce que j'ai parfaitement respecté et que j'admire encore. Michel Jourdas, par exemple, m'a dit, écoute, je sors d'un groupe, je suis en train de me préparer un album, je veux me faire une carrière solo, là, pour moi, c'est pas le bon moment de rentrer là-dedans, et j'ai parfaitement respecté et compris ça. La preuve, la suite lui a donné raison, il a fait une très belle carrière solo. Et puis, tous ceux qui sont venus dans R ont aussi fait de belles carrières.
Julien Clerc, le premier, parce que c'est un petit peu ce qui va se
faire. Il avait bien commencé, déjà. Oui. Hein, il avait bien commencé.
Il avait déjà la cavalerie.
Ah oui, oui, quand même. Ouais. Oui, oui. Mais c'était un moment fantastique. Et j'étais déjà parti pour Tahiti quand la première a eu lieu, parce qu'il a fait le temps des répétitions, de la mise au point.
Et t'as fait combien de kilomètres, là, depuis le début de cette émission, là ?
Entre
le nombre de kilomètres et le nombre de copines, ça fait pas mal.
It's a small, small world. Oui.
On va terminer, Hubert, avec un feuilleton, il y a quelques années, on ne sait pas trop, on n'a pas retrouvé exactement, tu vas nous le dire, un feuilleton des animateurs d'Europe 1.
Les personnages. Julie fleur bleue, très médinette, sous des dehors décontractés, qui roule à moto mais s'effondre d'émotion si on lui offre une boîte de chocolat. Maryse, farfouillette, ne pense qu'au shopping et à ce qui se fait de neuf dans la coiffure et le maquillage. Jean-Philippe Alain, le gadget, vit au milieu des gadgets. Tous les gadgets, pourvu qu'ils soient fous, surtout pas utiles. Christian Barbier, nimbus, jamais au courant, vit dans son monde à lui. Tape sur les fesses de Romy Schneider, mais ne sait pas qu'une émission d'Europe 1 n'existe plus depuis 3 mois. Jean-Loup Lafont, ne pense qu'au hic. Il en cherche partout. Ne s'intéresse qu'au Patrick ou éventuellement Julique. Robert Villard, le père tranquille. Son paquet de biscottes, sans sel, sous le bras, pour son petit déjeuner du matin. Christian Morin, la clarinette. Ne se déplace jamais sans sa clarinette, même à la plage. Viviane, la tige pensante. Fait des citations littéraires ou historiques, quelles que soient les circonstances. Peu aventureuse. Hubert, le routier, l'homme d'Oriot. Un pied dans l'aventure, l'autre à Europe 1. Jacques Ourevitch, Smarty, l'élégance fait homme. À la cantine d'Europe numéro 1, le Maximus du pauvre, la mine inquiète, se retrouvent Maryse, Viviane, Guy-Pierre Bennett, Christian Morin, Christian Barbier, Jean-Loup Lafont et Hubert.
Un gigot de gratin de chou-fleur.
Est-ce bien raisonnable, madame Julie?
Moi, un hamburger sans rien.
Prenez une choucroute.
Une choucroute pour monsieur Hubert. Avec une saucisse qui n'a pas servi. Autrement, il n'aime pas. Attention, s'il vous plaît, chaud devant. Laissez passer les productifs, s'il vous plaît. Ne gênez pas les productifs. Merci.
Et dites donc, les gars, c'est sympa de vous voir tous là, mais quand
même,
les copains d'abord, hein. Qu'à propos des copains d'abord, ça vous dit quelque chose, ça?
Allez.
Oh là, mec, quelle ambiance.
Celui-là avec son tubac.
Tubac, c'est une clarinette.
Ah ouais, bon,
c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas Topalov.
Hein. Bien dit, Morin, sans peut le dire.
Bah oui, bon, bah on n'est pas là pour rigoler. Bah où il est, Topalov, au fait?
Et oui.
C'est vrai,
oui.
Ça, dis-donc.
Et oui, où il est.
Alors c'est un petit peu l'émission mystère, hein, mais on connaît bien les voix.
Ouais. Ah, il y a du beau monde.
C'est, on dirait une promo.
Oui, ça ressemblait à une promo, oui. Mais
et ça n'éveille
superbe.
Aucun souvenir particulier en toi?
Bah, tu sais.
Nous allons continuer nos recherches.
Les seuls moments dont j'arriverai éventuellement à me souvenir ou que je pourrais oublier, c'est les moments où on n'a pas fait de bêtises rien que pour faire rire les autres, quoi. Enfin, non, quand c'est du permanent, tu notes pas. Et puis les moments de bonheur que tu vis, tu notes pas la date et l'heure, tu comprends? Après, t'as du mal à retrouver ça dans le calendrier.
Un pied dans l'aventure, un pied européen? Parce qu'il faut, pour ceux qui ne le savent pas, dire que tu as commencé comme pilote de chasse, ensuite pilote d'hélicoptère et Europe Stopper, ce fameux jeu sur Europe 1, et puis animateur d'Europe 1, et puis on a presque tout dit, et puis il va falloir se séparer, Hubert.
Oh bah non, c'est dommage. Justement, je voulais te parler de la course automobile à l'époque avec Henri Schumann, Jody et tout ça. Bon, bah ce sera pour une autre fois. Hein.
Et pour le plaisir, on se réécoute tout de même Ticket to Ride.
Merci beaucoup. The next song is pour Hubert. And it's called Ticket to Ride.
Et je me joins à George Harrison, c'est pas mal, c'est assez classe. Pour tout ce bonheur, merci Hubert, merci d'être passé à Europe. Les enfants d'Europe ont été ravis de t'accueillir. On se retrouve tous dimanche prochain, même heure. Et d'ici là, bonne fin de journée, bonne semaine et excellente radio.
À toujours. With me.